Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Kidal, comment gérer l'après-munissement, c'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Pour en parler, nos invités sont Bakabini Keïta, analyste politique, Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur analyste politique, et Mohamed Ben Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a quitté ce mardi 31 octobre le camp de Kidal. Ce retrait met fin à 10 années de présence de la MINUSMA dans cette région. Aussitôt que les casques bleus onusiens se sont retirés, le cadre stratégique permanent composé de certains groupes armés signataires de l'accord a occupé l'emprise de la MINUSMA. L'armée malienne a, dans un communiqué, dénoncé un départ précipité des casques bleus, laissant l'emprise et les équipements aux mains des groupes armés. Que comprendre de ce départ de la MINUSMA? À quoi faut-il s'attendre après ce retrait? Comment la question de Kidal doit-elle être gérée? Le Grand Dialogue pose le débat avec tous ces invités que je viens de vous présenter. Sekou Gadjigo va modérer ce Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Merci, chers invités, d'être là. Avant d'entrer dans le vif de ce débat, je voudrais vous faire écouter ce papier qui revient un peu sur ce départ de la MINUSMA annoncé hier, mardi 31 octobre.
La MINUSMA a mis fin à sa présence dans la région de Kidal aujourd'hui après le départ de ses derniers personnels par avion et par convoi terrestre, peut-on lire dans un communiqué publié sur la page Facebook de la mission onusienne. La MINUSMA se retire donc de sa dernière emprise dans la région après celle de Tessalit, Aguelog. Quelques heures auparavant, le porte-parole du cadre stratégique permanent, Mohamed El Maouloud Ramadan, avait également indiqué sur son compte Facebook, après Barkhane, ce 31 octobre, la MINUSMA a plié bagage de Kidal. Désormais, la ville est sous contrôle total du CSP-PSP. Dans un communiqué, les forces armées maliennes disent avoir constaté avec regret le retrait de la MINUSMA du camp de Kidal. Elles déplorent qu'une fois de plus, cette emprise n'a point fait objet de rétrocession comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises MINUSMA. Cette situation de départ précipitée de la MINUSMA met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal, poursuit la note.
Alors, la MINUSMA qui se retire de Kidal, de la ville de Kidal et de toute la région, l'emprise de Kidal était la dernière occupée par la mission onusienne, Dr Abdoul Sogodogo. Ce départ, même si l'armée juge précipité, on peut dire quand même qu'il était attendu.
Oui, on peut le dire, ce n'est pas une surprise dans l'absolu, parce qu'effectivement, depuis juin, quand le Mali a demandé le retrait de la MINUSMA et obtenu à travers la résolution 2690, on s'attendait à ce que la MINUSMA puisse partir, mais la surprise est qu'on s'attendait, il y avait un planning, n'est-ce pas, de rétrocession de ces camps, et ça a bien commencé avec le camp de Aguelog, le camp de Douanza, etc. Mais c'est arrivé maintenant dans la région de Kidal.
La MINUSMA devait partir le 15 novembre.
Exactement.
Mais donc, depuis quelques jours,
elle a accéléré effectivement sur son départ. Ouais. Et peut-être que les raisons que la MINUSMA a avancées peuvent être compréhensives. Mais le fait de ne pas discuter, de ne pas aller à un consensus avec l'État et de le céder comme cela se doit, c'est ce qui soulève des inquiétudes. Voilà. Finalement, quel est le but recherché? On va vers quelle finalité?
Alors, Mohamed Ben Mamata Touré, est-ce que les arguments avancés par la MINUSMA pour justifier ce retrait précipité, sinon l'accélération du processus de retrait, est-ce que c'est des arguments qui tiennent selon vous?
Bon, pour moi, c'est des arguments qui ne tiennent pas parce que déjà qu'il y avait un chronogramme qui avait été établi par les Nations Unies L'AMINUSMA étant une structure des Nations Unies devrait être un exemple en respect du droit et puis du protocole aussi.
Même donc, si ces hommes étaient menacés ici, l'AMINUSMA disait que ces casques bleus n'étaient plus en sécurité puisqu'il y avait une belligérance entre l'armée malienne et certains groupes armés.
Bon, si l'AMINUSMA dit ça, les Nations Unies sont puissantes. Les Nations Unies pouvaient aussi essayer de faire sortir par une autre voie en essayant de mieux sécuriser le contingent de l'AMINUSMA. Donc, il ne serait-ce que quand ils prenaient l'entente avec les autorités maliennes, ils avaient dit que la sécurité de l'AMINUSMA, du personnel de l'AMINUSMA et de tous les équipements revient aux autorités maliennes. Donc, le fait qu'aujourd'hui le Mali est en difficulté, nous avons des trucs un peu partout, donc dispersés, nous ne pouvons pas faire autre que ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, c'est aux Nations Unies de prendre d'autres mesures, d'autres dispositions afin de sécuriser le convoi et le personnel de l'AMINUSMA. Donc, si ça n'a pas été fait, la faille vient des Nations Unies. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont fait expressement, parce que même depuis qu'ils ont quitté Berre précipitamment, on sent qu'il y avait quelque chose qui sentait. Donc ça n'a pas commencé par Kidal, et depuis Berre, eux, ils devraient attendre jusqu'à ce que l'armée malienne vienne pour faire la rétrocession et donner les clés des camps à l'armée malienne. Mais si elles n'ont pas fait ça, donc ça veut dire que tous les discours que l'AMINUSMA est en train de tenir, c'est des discours qui ne tiennent pas du tout.
Alors, Baka Bini, partagez-vous cette analyse de M. Touré?
Bon, écoutez, je salue d'abord Kadjiko, vous-même, et puis l'ensemble de vos collaborateurs de Studio Tamani. Permettez-moi également de saluer mes co-débatteurs et puis les auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Ceci dit, moi je dirais que on ne peut pas s'attendre d'une situation de complot. On ne peut pas s'attendre de là sortir de la sincérité, de la bonne collaboration, parce que depuis le départ, l'AMINUSMA, sinon même toutes les interventions étrangères au Mali, ont été, ça a été un complot. Et nous avons, chacun de nous se rappelle de ses propos du feu Django Sissoko, Premier ministre de la Transition, qui a dit que le Mali n'avait jamais demandé à la France une intervention aérienne et une intervention au sol. Donc, ils ont juste demandé à la France, dans une lettre, une intervention aérienne. Et ça, on l'a transformé en une intervention terrestre. Et donc, c'est à partir de là qu'il y a eu Barkhane, qu'il y a eu finalement l'AMINUSMA. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation. Comment vous voulez, donc, de cette situation de complot, de micmac, de stratagème, de subterfuge? Donc, comment vous voulez qu'on puisse s'attendre à quelque chose de potable, de clair et de sincère de la part de ces gens? Quand on sait aussi que dans les récentes déclarations de certaines autorités françaises, dont on a déjà prévu la division du Mali, mais mieux que ça, on a dit que la prise du pouvoir par la force, notamment au Mali, au Sahel, dans deux pays, à savoir le Burkina Faso et le Mali, que cela a été une occasion, en tout cas, pour mettre à terre les intérêts de la France.
Sauf ici, on ne parle pas de la France, on parle des Nations Unies, de l'AMINUSMA.
Gadjigo, en réalité, l'AMINUSMA au Mali, parlons-en.
C'est les Nations Unies?
Oui, mais j'ai dit l'AMINUSMA au Mali, parlons-en. Oui, c'est les Nations Unies, mais attention, c'est les Nations Unies qui ont donné, qui ont voté une résolution, donc pour que l'AMINUSMA se retire. Donc on ne peut pas, c'est aussi une erreur, ça sera une erreur conceptuel de vouloir ramener l'AMINUSMA aux Nations Unies. L'AMINUSMA est un démembrement, est un outil, un dispositif des Nations Unies, je suis d'accord avec vous, mais on ne pourrait pas ramener l'AMINUSMA aux Nations Unies. Un, deux. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'AMINUSMA au Mali, donc dans sa grande majorité, est constitué, et notamment au niveau de sa direction, C'est la France qui occupe pratiquement tous les postes de responsabilité. Et vous connaissez le rapport aujourd'hui, la France avec le Mali. Donc le fait que les choses se terminent ainsi, je crois que j'étais sur ce plateau il y a une ou deux semaines avec Tonkara, on le disait ici, qu'il n'y aura pas de collaboration, il n'y aura pas de retrait ordonné et concerté de l'aménagement jusqu'au bout, surtout en ce qui concerne le cas de Kidal, que les Français, en tout cas, considèrent comme un enjeu stratégique. D'ailleurs, rappelez-vous quand il y a eu, en tout cas, la reconquête de territoires que les groupes armés avaient occupés. Et donc, tous les territoires avaient été libérés à un moment donné, sauf la région de Kidal. Arrivé à Kidal, on a interdit l'armée malienne.
Oui.
Donc, vous voyez, donc tout cela, et sont des indices qui pouvaient en tout cas nous dire que la rétrocession de Kidal n'allait pas se passer dans l'amiable.
Alors, c'était prévisible selon Bakabini, mais docteur Sogoudou, est-ce que quand on regarde le processus, on a vu que beaucoup d'emprises ont été rétrocédées à l'armée, en tout cas de façon beaucoup plus tranquille, conventionnelle, que ce soit à Ogossagou, que ce soit à Menaka, que ce soit d'autres emprises, mais c'est dans la région de Kidal, à partir de la région de Kidal, que les problèmes ont commencé. Est-ce que quelque part, la MINUSMA, on ne peut pas comprendre sa position, ses inquiétudes par rapport à la sécurité, puisque après, avec la reprise de la belligérance entre les deux parties.
Oui, et ça c'est l'argument avancé par la MINUSMA, une sorte de recrudescence, une détérioration progressive de la sécurité, c'est ce qu'on voit dans le communiqué de la MINUSMA. Mais effectivement, il y a des enjeux. Il y a des enjeux, comme vous le savez tous, et mes co-débatteurs l'ont évoqué, chacun à sa façon. C'est que vous avez les groupes armés qui considèrent que cette zone, notamment la région de Kidal et certains camps du Nord, doivent les revenir parce que ce sont des zones supposées être leur zone de cantonnement et donc qui sont supposées contrôler. Mais ça ne colle pas avec l'autre lecture qui est que l'aménagement est au Mali sur la base d'un accord avec l'État malien, avec le gouvernement malien. Et quand l'aménagement doit partir, elle ne reconnaît que l'État malien. Et tous les accords, notamment que ce soit l'accord d'Alger, les accords de Ouaga, etc., tous les accords vont sur la base de l'État unitaire. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a justement ce déchirement. Et on a vu avec les communiqués de la CEMA qui dit entrer même en guerre parce que la CEMA entend contrôler justement ces zones-là. Et donc, pour la MINUSMA, elle exposerait ses membres à des violences. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau en soi, en fait. Ce n'est pas nouveau. Et je pense que ça ne devrait pas, quelle que soit la montée de la tension, cela ne devrait pas justifier, c'est-à-dire un retrait désordonné de la MINUSMA, parce que ce retrait désordonné, s'il n'est pas traité suffisamment par les acteurs en face, ça peut dégénérer effectivement la situation sécuritaire. Je dis ça pour deux raisons. Parce qu'on a vu dernièrement, dans ce qu'on a appelé parfois dans les médias, une montée ou peut-être une aggravation de la situation sécuritaire, on voit que les attaques actuellement sont plus dirigées contre les populations civiles que contre les bases militaires. Parce que c'est de moins en moins qu'on voit ce genre d'attaques. Ça veut dire que, d'une certaine façon, ce qui est avancé par le gouvernement malien, qui est de dire qu'il y a un combat contre les groupes djihadistes, ça étaye cette thèse-là. Parce que moi, je suppose que la CEMA, si elle veut contrôler une zone, c'est avant tout être utile à des populations. Je n'imagine pas que la CEMA puisse attaquer les populations civiles. Ça, c'est un non-sens si on prétend avoir un territoire qu'on veut gouverner et s'acharner sur ces mêmes populations civiles. C'est illogique. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il faudrait que l'aménagement continue à se mettre en harmonie, en accord avec le gouvernement pour permettre au gouvernement de se redéployer à l'armée nationale, de pouvoir se redéployer comme cela se doit pour la sécurisation des populations maliennes avant tout. Parce qu'on ne peut pas laisser des camps à des groupes terroristes. C'est illogique.
D'accord. Alors, Ben Mamata Touré, quelle lecture vous faites de la réaction, en tout cas de la position adoptée par l'État, sinon l'armée malienne, depuis l'annonce de ce retrait, à part ce communiqué dans lequel il a dénoncé ce retrait précipité? Il n'y a pas eu de... On n'a pas d'écho de mouvement, des forces armées ou d'affrontements. Est-ce qu'il y a une lecture qu'on peut faire de cette position adoptée par l'armée?
Bon, la lecture qu'on peut faire de la part de l'armée est que aujourd'hui, depuis que Ber avait été libéré et que l'armée a pu prendre le camp de Ber avec force et tout ce qui s'ensuit, depuis ce jour, l'armée devrait anticiper toute la reprise des différentes entreprises, Kidal, Tessalit, Agelok et d'autres. Donc maintenant, et ce que l'armée dénonce aussi de la part de la MINUSMA, donc l'armée, depuis un bon moment, la MINUSMA avait annoncé qu'elle allait quitter le Mali, Kidal, pardon, elle allait quitter Kidal avant le 15 novembre. Donc avant le 15 novembre, quelles dispositions nos autorités militaires avaient prises? Donc cette question devrait être posée. Donc maintenant, si eux, ils avaient commencé déjà à anticiper ça depuis que nos forces armées étaient rentrées à Anéfis. Maintenant, de Anéfis, quelles dispositions ils avaient prises maintenant pour être à Kidal? Donc, il fallait qu'ils s'organisent un peu. Donc, même quand nos 111 militaires avaient quitté le camp 2 pour aller au camp de la MINUSMA, puis les renvoyer encore à Gao. Donc, tout cela montre qu'il y avait quelque chose de flou qui était en dessous. Donc, maintenant, on dirait que les dispositions que nos gens devraient prendre n'ont pas été prises autant au moment qu'il faut, ou bien ils n'étaient pas du tout sûrs que la MINUSMA allait quitter Kidal le 31 ou bien le 30 octobre. D'accord. Donc, peut-être que ça les a échappés un peu, croyant que la MINUSMA allait faire au moins quelques jours avant le 15. Donc, bon.
D'accord. Mais est-ce que, Bakabi, on ne peut pas dire aussi que l'armée veut éviter d'autres affrontements comme ceux qu'on a vus à Ber et que la question de Kidal puisse être gérée d'une autre façon, de façon en tout cas peut-être en négociant?
Ben écoutez, il n'y a pas mille façons de gérer. Et si tel est le cas, c'est-à-dire aller vers une autre négociation, je crois que ce n'est pas la première fois que j'ai dit ça. Donc c'est la énième fois que je vais dire. Ça va être une grosse erreur de la part des plus hautes autorités du Mali, civiles et militaires, de s'engager dans de nouvelles négociations sans un véritable rapport de force. Donc il faut aller inéluctable.
Oui, mais des négociations entre Maliens, négociations directes. La fois dernière, c'était les nations sous l'égide des Nations Unies, oui, la communauté internationale, mais cette fois-ci...
Écoutez, on ne peut pas négocier avec des gens qui ont des armes à la main et qui s'adonnent à cœur joie à tuer des civils innocents. Donc ça, c'est impossible. Donc un État responsable ne peut pas accepter ça. Et il faut aller à un rapport de force. Ceux qui vont déposer les armes, évidemment, bien entendu, et ce n'est pas tous les groupes armés qui ont les armes, il y en a qui ont accepté de déposer les armes. Entre eux-mêmes, ils sont divisés. Il y en a qui ont déjà accepté de s'associer avec l'État. Peut-être c'est une stratégie. Donc on ne va pas tous prendre une position radicale. Il y a les gens qui vont donc jouer à la diplomatie. Il y a d'autres, effectivement, qui vont jouer au va-t-en-guerre. Et, bon, peut-être qu'ils sont dans cette logique, mais de toute façon, en ce qui concerne le gouvernement malien, je pense que effectivement, il y avait des voix qui s'étaient élevées un moment au niveau politique, social, etc., pour demander au gouvernement d'aller à des négociations. Donc pour un cessez-le-feu, donc pour éviter un rapport de force à Kidal. Pour moi, c'est ça l'erreur. Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Donc c'est un jeu dangereux. Aujourd'hui, il faut le dire clairement et avec courage, aujourd'hui, accepter d'aller vers une nouvelle négociation sans un rapport de force militaire, bien entendu, avec les gens qui refusent de déposer les armes. Et pour moi, c'est aller vers la partition de notre pays. Et donc ça sera dommage. Je pense qu'on va vers un affrontement. Et cet affrontement est inévitable parce qu'il y a des radicaux qui ne veulent pas écouter la voix du dialogue, la voix de la négociation, qui pensent qu'ils ont des soutiens, qu'ils ont des sponsors. Ils comptent aussi donc sur ces alliés-là, sur ces sponsors, donc pensant qu'ils pourront toujours... Mais c'est une erreur. Imaginez, il y a combien de camps, il y a combien d'emprises qui étaient occupées par ces groupes armés. Donc, ils ont perdu toutes ces positions-là. Donc, ce n'est pas à Kidal qu'ils pourront tenir. Donc, la question de Kidal n'est qu'une question de jours, de semaines, peut-être de mois. D'accord. Sinon, tôt ou tard, il est clair que Kidal fera partie. Kidal fait partie du Mali. Kidal va se soumettre au Mali.
D'accord, docteur Sougoudougou, partagez-vous cette analyse de Bakabini. Est-ce que c'est la seule option qui nous reste maintenant pour que Kidal revienne dans le giron du Mali, ou bien voilà, il y a des chances encore à donner au dialogue entre les différentes parties?
Le dialogue est déjà en cours, c'est ce que j'ai cru comprendre dans les déclarations du gouvernement, parce que le gouvernement a toujours dit qu'il est en train de combattre des groupes terroristes. Et n'a pas fait allusion à la CEMA ni à la plateforme, a dit au groupe signataire. Et je crois que la dernière fois que j'ai écouté le ministre de la réconciliation Wagé, c'était un appel au groupe signataire.
Mais ce n'est pas ce qu'on attend de l'autre côté, ce n'est pas ce qu'on attend du côté de la CEMA.
J'en arrive, c'est ce que j'ai écouté la dernière fois. Et donc, je crois que, sauf erreur de ma part, depuis le redressement de la transition, la position du gouvernement semble être de combattre les groupes terroristes. Donc, avec les groupes terroristes, les négociations ne sont pas envisagées. Et donc, ça aussi, on peut le comprendre. Comme toutes les grandes puissances, tous les pays dans ce monde-là qui sont confrontés au terrorisme, tous ces pays-là combattent les groupes terroristes. Ça, on le comprend. Mais je me dis, si jamais, les groupes qui sont dans l'accord et qui restent dans l'accord, je n'ai pas l'impression qu'ils sont traités autrement que sur la base de ce qui est envisagé, n'est-ce pas, ce même processus qui reste dans l'accord. Mais je pense que pour le moment, depuis que ce retrait a commencé, l'accord me semble être mis de côté. Parce que on n'est plus dans l'accord, parce que l'accord veut que l'accord reconnaisse l'unicité de l'État. Il demande juste que les combattants soient démobilisés, voilà, pour qu'ils puissent être réintégrés dans l'armée ou en tout cas réinsérés dans la société. Mais en aucunement il n'est dit qu'ils doivent contrôler une partie du territoire pour en faire un État qui ne dit pas son nom. Ça, cela ne ressort pas de l'esprit de l'accord. Et donc, je pense que quel que soit le conflit dans un pays donné, en un moment donné, ça finit toujours par une discussion. Mais tant que le moment aussi n'est pas venu, cette discussion n'est pas possible. Là où nous en sommes aujourd'hui, je pense que les deux acteurs sont à un point que j'appelais de non-retour, parce que chacun veut aller au bout de sa logique. Notamment le gouvernement, l'État tient à s'installer sur l'ensemble du territoire national, et certains groupes aujourd'hui tiennent à garder le contrôle de certains territoires qu'ils ont eu pendant un certain temps. Et je pense que c'est à ce niveau-là de contrôle de territoire que va se jouer la chose.
Ben Mamata Touré, comment gérer cet après-munissement à Kidal?
Bon, cet après-munissement, la gestion revient aux autorités militaires de la transition, surtout, et aux autorités politiques. Ça a eu d'élaborer un plan. Et pour que, après la reprise des différentes entreprises, des différentes emprises, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc maintenant, renforcer le personnel militaire qui se trouve dans les différentes emprises, et puis essayer de démystifier les militaires auprès de la population, donc en les invitant de travailler avec les militaires, en leur fournissant les informations de ceux qui restent parmi les terroristes, parmi les populations aussi. Donc, aujourd'hui, comme...
Comment rentrer à Kidal sans effusion de sang et être accepté des populations qui sont dans cette localité?
Bon, aujourd'hui, si on dit comment rentrer à Kidal sans effusion de sang, on rentre à Kidal avec effusion de sang. Parce qu'on ne peut pas se laisser faire aussi par des bandits, par une mini-minorité qui ne représente même 0,01% de la population kidaloise. Aujourd'hui, après le départ de l'aménagement de Kidal, la population de Kidal souffre sur tous les plans. Et vous allez voir, ces gens, ceux qui sont pour le Mali et qui veulent discuter, dialoguer pour, avec le Mali et reviennent au Mali comme des Maliens comme, auparavant, et ils sont déjà là. Le ministre de la Réconciliation les a appelés. Ils sont autour de la table aujourd'hui pour en train de discuter. Le directeur de la DIRPA, lui, lors de, d'une de ses sorties tout récemment, il avait dit qu'il prône le dialogue, que si l'armée malienne rentre à Kidal et que les autres là, s'opposent à l'entrée de l'armée malienne, peut-être qu'il va, il va y avoir du sang malien qui va être versé. Donc, pour éviter ça, ils invitent ces groupes à déposer les armes et à revenir en la raison. Mais tant qu'ils ne le font pas, donc tant qu'ils ne le font pas, le sang n'est pas à éviter. Ce que la MINUSMA a fait maintenant pour rentrer, vous savez que c'est un piège. Donc, ils le font maintenant pour essayer de monter un scénario comme ils l'ont fait à d'autres. Si l'armée essaie de forcer l'entrée, les groupes terroristes, ils sont capables de commettre des exactions sur des civils en disant que c'est l'armée malienne qui a commis ces bavures. Donc maintenant, si on rentre, il faut que nous rentrons avec la plus grande sérénité et puis avec la plus grande attention pour ne pas être discriminé par les soi-disant, je ne sais pas, droit international des Nations Unies ou quoi là. Si eux, ils commettent des exactions, donc le droit n'est pas international. Mais si nous, nous rentrons et combattre des terroristes, donc ça veut dire que nous, nous avons fait des exactions. Il faut voir le cas du bateau. Même les groupes qu'on qualifie de groupes terroristes, ils ont dit que ce ne sont pas eux qui l'ont fait. Mais le CSP et puis la CEMA qui est là, et ce sont eux qui l'ont fait, si ce n'est pas l'Enjim, les Daesh et puis les autres qui l'ont fait. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont plus pires que les terroristes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons discuter entre nous, Maliens, sans médiation étrangère, avec les Maliens qui décident de déposer les armes et venir autour de la table malienne pour discuter franc entre nous.
Ok. Bakabini, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'aggravation de la situation humanitaire dans la région après ce départ de la MINUSMA, quand on sait que la MINUSMA offrait des services sociaux de base aux populations locales? Si c'est la CEMA qui doit s'occuper de tout ça maintenant, est-ce qu'il y a des garanties qu'il n'y ait pas ces risques-là aujourd'hui?
C'est dommage quand même que tous ces efforts soient investis pour la guerre alors que les gens ont besoin de manger, de se loger, de, etc., etc., donc de sécurité sociale. Je le dis à la fois pour le gouvernement malien qui a été contraint effectivement d'aller vers cette guerre, mais je le dis également surtout pour la CEMA qui quand même revendique le bien-être des populations du Nord. C'est regrettable qu'ils mettent tous ces moyens-là dans la guerre alors qu'on pouvait en tout cas tout simplement les investir pour la population. Ce que je voudrais aussi dire de passage, Gadjigo, c'est aussi, moi je voudrais un peu m'attarder sur le geste désespéré de la MINUSMA. Le fait de partir de façon unilatérale, sans concertation, laisser une emprise dans la main, en tout cas, des rebelles. Donc c'est un subterfuge qui va consister certainement à laisser des munitions et à laisser des explosifs.
Alors la MINUSMA a dit dans son communiqué qu'avant de partir, elle a détruit et elle a mis hors d'état de, je sais pas.
Il y a aussi des informations.
Voilà, c'est tous ces équipements.
Que la MINUSMA a dit qu'elle n'a pas pu amener tous les explosifs, toutes les munitions, au prétexte que le vol lui a été interdit par les autorités maliennes. Et donc, en conséquence, c'est qu'elle a pu prendre la prisa et puis le reste, en tout cas, des explosifs et des munitions sont restés dans le camp et qui n'a pas été laissé à l'armée malienne ou aux autorités maliennes, mais plutôt au camp adverse. Et donc, évidemment, ils vont venir récupérer ces... Donc, ce que je voudrais simplement dire, que c'est un geste désespéré. Mais ce que signifie ce geste désespéré, c'est que pour moi, Nous avons vu la SDN, comment la SDN est montée en puissance et après comment elle est tombée en disgrâce. Les Nations Unies également. Et apparemment, c'est une prélude également d'un changement, d'un grand changement qui est en cours. C'est-à-dire que nous sommes en train de sortir d'un monde unipolaire vers un monde bipolaire. Et donc, comment vous pouvez comprendre qu'une résolution qui a été votée par les Nations Unies et qui est désobéi par un dispositif des Nations Unies. Donc, ça veut dire qu'il y a des tensions, il y a des conflits que les Nations Unies elles-mêmes sont traversées. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, ce que je voudrais aussi dire, c'est que je ne sais pas si vous connaissez une institution, ça existe pratiquement dans tous les groupes ethniques au Mali, c'est le Malinké, c'est le Comon. Et donc, les groupes armés, notamment les gens de la CME, ils sont en train de jouer au Comon. C'est-à-dire qu'on fait un grand bruit, on a l'impression qu'ils ont beaucoup de force, ils ont beaucoup de puissance, et on a l'impression que le Mali va tomber. Moi, j'ai eu à dire ça, que les gens se tranquillisent. On a dit que quand Barkhane va quitter le Mali va s'effondrer. Mais le Mali est toujours là, Barkhane est parti. On a dit que quand l'AMINUSMA va partir, le Mali va tomber. Et le Mali est toujours là. Et on a, donc l'AMINUSMA, en laissant la Kidal dans la main des groupes armés, on pense que le Mali va tomber. Le Mali ne va pas tomber, on fait trop de bruit autour de Kidal, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura même pas de grand effort pour récupérer Kidal.
D'accord. Monsieur Sogodogo, qui pour favoriser maintenant le dialogue? Vous l'avez dit, le dialogue n'est pas interrompu, mais de façon officielle, ce que nous constatons, le dialogue suite à l'accord de paix quand même est au point mort maintenant. Qui pour redynamiser ce dialogue entre ces deux parties, entre le gouvernement et les groupes armés réunis au sein du cadre stratégique permanent?
Merci pour cette question, c'est intéressant. Elle est intéressante, pardon. Effectivement, je crois moins à l'accord de 2015. Je ne pense pas que l'Algérie ou un autre acteur international puisse rapidement ramener le Mali, le gouvernement du Mali et les groupes armés aujourd'hui qui se sont engagés dans une autre voie. S'il va y avoir une discussion profonde qui peut amener à dégager une troisième voie d'apaisement, je pense que ça peut venir des acteurs maliens, même des acteurs locaux. Ça peut être des légitimités, en tout cas des acteurs dans lesquels et le gouvernement et les groupes armés ont suffisamment confiance pour pouvoir engager une discussion. Et je pense que depuis fort longtemps, dans nos travaux, c'est ce que nous avons parfois conseillé, les accords internationaux permettent d'arrêter tout de suite le conflit, c'est-à-dire l'affrontement violent. Mais il y a des déchirures profondes dans la société qu'il faut réparer. Et pour les réparer, il faut revenir aux mécanismes de chaque communauté, de chaque société, pour essayer de voir comment on recoupe ces plaies-là, les repenser pour pouvoir aller de l'avant. Donc je pense qu'il faut miser d'abord le cadre officiel qui est déjà là, l'espace de discussion autour du ministre de la Réconciliation qui existe jusqu'à preuve de contraire, la renforcer avec des mécanismes endogènes que nous avons de façon classique de gestion des conflits. C'est sur ces genres de mécanismes que je peux fonder espoir, mais sinon l'intervention internationale pour réguler ce conflit, ça m'étonnerait que cela puisse fonctionner, en tout cas à court terme, je ne le vois pas.
Alors, Ben Mamata, les positions quand même deviennent de plus en plus distantes, hein, même ce qu'on peut appeler les personnes ressources, les autorités locales, nous sommes en train de constater, même au niveau du CNT, on voit que des responsables des groupes armés du Nord qui étaient au CNT, certains ont annoncé leur démission. Aujourd'hui, sur quoi on peut s'appuyer pour vraiment redynamiser ce dialogue-là?
Bon, le dialogue, on peut s'appuyer là-dessus. Pourquoi je disais qu'on pouvait dialoguer entre nous, Maliens, sans médiation étrangère, à travers nos légitimités traditionnelles, coutumières, les communicateurs traditionnels et même les religieux. Vous voyez le cas de Tombouctou, le blocus qui était sur Tombouctou. Ce n'est pas la communauté internationale qui a fait qu'aujourd'hui les camions rentrent. Ce n'est pas la communauté internationale qui a fait qu'aujourd'hui les cars puissent quitter Bamako et d'autres localités pour Tombouctou. C'est parce que les légitimités coutumières et les notabilités de Tombouctou se sont levées et ils se sont mis ensemble en mettant le maire de la ville au-devant des choses. Ils sont allés pour aller rencontrer leurs enfants, d'après ce qu'ils disaient. Parce que lors d'une rencontre des ressortissants de Tombouctou à la pyramide ici, quand nous nous avions pris part, c'est ce que les ressortissants de Tombouctou avaient dit. Ils disent ces gens qui sont là à prendre les armes, à mettre le blocus sur nos différentes villes, ce sont nous nos enfants. Ce sont nous, nos frères. C'est un de nous. Pourquoi ne pas aller vers eux, discuter avec eux, savoir ce qu'ils veulent et ce qui les empêche et ce qui les pousse à mettre cela. Donc, ils ont fait ça à Bamako. Quand ils sont rentrés à Tombouctou, ils ont mis une commission en place. Et ils sont partis les rencontrer. Et ils ont eu gain de cause aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire ça à Kidal, à Gao et dans toutes les autres localités du Mali où il y a un problème? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en crise de leader. Si je dis leader, nous sommes en crise de leader religieux qui est écouté, de leader politique, de la société civile et même des personnes ressources qui aujourd'hui pouvaient aller voir une organisation ou bien une structure et discuter avec eux. Aujourd'hui, tout le monde parle du Mali, mais personne ne veut travailler au nom du Mali. Si vous dites, venez, on va se mettre ensemble pour essayer de mettre une coordination ensemble, aller faire des pourparlers avec nos frères qui sont égarés, qui détiennent les armes. Il y a beaucoup qui disent que vous et nous, on ne voit pas la chose de la même façon. Ou bien on ne peut pas le faire ensemble parce que nous ne sommes pas du même camp. C'est le problème de camp ou de personne qui a fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un leader digne de ce nom, qui est écouté et qui est suivi par tous. Sinon, le cas de Tombouctou est un exemple palpable qui est là. Et maintenant, les régions du Nord et autres, on peut se mettre ensemble, choisir les par exemple, on prend l'amas local de Kidal, hein, ou bien les traditionnalistes qui sont là-bas, Tombouctou, Gaoué, et puis les religieux, les imams, et puis autres. On crée une bonne commission et on les envoie en mission. Mais ça ne peut pas se faire sans le mandat de l'État. Il faut que l'État s'assume et que l'État s'implique aussi.
D'accord. Voilà. Nous avons posé la question à des Maliens. Qu'est-ce qu'ils pensent de comment gérer cet après-ministrement à Kidal? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce retrait de l'administrement? Ils nous ont répondu, je vous propose d'écouter ce micro-trottoir réalisé à Bamako ici.
En tant que citoyen de Tombouctou, je pense que le départ précipité de l'aménagement, c'est quelque chose qui, au risque, n'est-ce pas, de se retrouver entre les affrontements, je crois que l'aménagement a dû quitter Kidal.
Donc, en principe, l'aménagement devait respecter ces délais impartis-là. Ensuite, faire la remise du camp aux FAMA avant de partir, ce qui n'a pas été fait.
Faire tout pour que vraiment la paix puisse régner sur toute l'étendue du territoire, qu'on puisse exercer notre souveraineté sur l'ensemble du territoire du Mali, et avec l'appui de tous les Maliens aussi.
Solution Mimbe, ni kele madara. Gouvernement Kanga, si kafo de Gini, vraiment ou ka kele yo, ni kele jora, solution misro fenjamana.
Alors, tout le monde n'est pas pour la guerre. Hein. Il y en a qui sont pour le dialogue, pour les négociations, contrairement à Bakabini, qui pense que voilà, ce serait une erreur d'aller vers des négociations encore une fois. Aujourd'hui, Bakabini, est-ce que l'arrivée de l'armée peut se faire comme dans les autres localités libérées par l'aménagement il y a quelques jours? Est-ce que le cas de Kidal peut être géré comme les autres cas?
Bon, je voudrais apporter une précision, si vous me permettez, Kadigo. Effectivement, c'est surprenant de ma part, en tant qu'enseignant, oui, donc en tant que prof de philo, de dire qu'il faut aller vers un rapport de force. Mais c'était le cas de... Excusez-moi, juste un petit rappel. C'était le cas de Machiavel quand il écrivait Le Prince et qu'il décrivait exactement le pouvoir tel qu'il se présente. Non pas tel que les gens voudraient qu'il soit, mais tel que le pouvoir est, il l'a présenté. Ensuite, lorsque Malthus, dans sa théorie économique, prévoyait effectivement la limitation des naissances, donc pour qu'on puisse aller au développement, les gens l'ont accusé à tort et à travers. Il a dit que oui, je suis pasteur. Je veux la paix, je veux l'humanité, je veux la vie, je veux protéger les vies humaines. Mais la vérité aussi, il faut le dire. Donc moi, je ne suis pas dans ce que moi je veux. Moi, je ne souhaite pas la guerre dans mon pays. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a déjà un premier accord qui est en panne. Et pourquoi cet accord est en panne? Parce qu'il y a des gens qui ont refusé de déposer les armes. Et donc, vous voulez qu'on aille en négociation avec qui encore? Donc, on peut, c'est-à-dire qu'il faut aller à ce rapport de force. Maintenant, c'est après ce rapport de force, l'appel à la réconciliation et le développement. Il y a même un ministère dans le gouvernement malien qui est dénommé ministère de la réconciliation et de la cohésion. Vous pensez que c'est une plaisanterie de la part de ceux qui sont au pouvoir si on a créé ce département ministériel? Non, c'est pas par, il n'y a pas de plaisanterie. Ils ne sont pas en train de plaindre. C'est un devoir de l'État d'apporter la paix, d'apporter la réconciliation et d'apporter le développement aux citoyens. D'ailleurs, il y va de sa légitimité. Un pouvoir politique ne tire sa légitimité que lorsqu'il est capable d'apporter la paix, la réconciliation et le développement donc aux citoyens. Mais lorsque une infime partie de la population dans une région quelconque, qu'il soit notable, nous sommes tous des notables. Nous venons tous de grandes personnalités qui ont fait l'histoire de ce pays. Quelle est la composante malienne aujourd'hui qui ne peut pas se taper la poitrine pour dire que je suis descendant de Sundiata, je suis descendant de Firoun, je suis descendant de tel, de Babemba, de Tchepa, etc. Chacun peut faire ça. Mais à un moment donné de la vie, si nous avons choisi de vivre dans une république, il est clair que nous devons tous être égaux. Et si nous devons être égaux, il faut que les gens acceptent de se soumettre à la puissance publique. Donc, pas de négociation tant que des gens prennent des armes contre leur État. Qu'on les appelle terroristes ou qu'on les appelle rebelles, ils sont tous pareils. Quand vous prenez des armes contre votre pays, votre sort, vous n'avez d'autre sort que de disparaître. Donc, moi, je pense qu'il faut aller à ce rapport de force. Maintenant, c'est au terme de ce rapport de force que l'État malien donc s'occupera de son devoir de construction de paix, de construction de la réconciliation, mais également d'apporter effectivement le développement aux citoyens de son pays.
Alors, on a dit que les négociations sous l'égide de la communauté internationale n'ont pas permis d'avoir, en tout cas, les résultats escomptés. Est-ce que des initiatives sur le plan sous-régional, dans le Sahel, des pays voisins peuvent avoir des initiatives de dialogue entre ces deux parties?
Ça va m'étonner que une initiative sous-régionale, par exemple, venant du Burkina, du Niger, de la Guinée-Conakry, etc., puisse marcher. Parce que les acteurs, depuis de longues années, il n'y a que trois médiateurs, trois États qui ont tenté, à vrai dire, de médiation dans ce conflit malien qui se poursuit depuis les années 60. Hein. C'est l'Algérie qui a tout le temps été médiateur. En 2008, Kadhafi l'a essayé en Libye, mais ça n'a pas abouti à la signature d'un accord. Alors, en 2012, c'était l'accord de 2013 avec le Burkina, c'était la CEDEAO qui avait mis Blaise au devant de la scène. Cet accord, c'est vrai, ça a permis l'arrêt des hostilités, la tenue des élections présidentielles de 2013, etc. Mais vous avez vu récemment, en 2020, la médiation de la CEDEAO, ça a été un fiasco. Ça n'a pas permis aux différents acteurs d'arriver à une entente. Ce que je veux dire par là, ça dit, vous n'avez pas un médiateur dans la sous-région, c'est-à-dire les pays voisins du Mali, qui a en même temps les ressources nécessaires pour influer suffisamment sur le gouvernement malien et les acteurs qui sont armés et avoir cette sorte de légitimité de pouvoir véritablement avoir des appuis extérieurs de d'autres entités aussi, c'est-à-dire telles que l'ONU, l'Union africaine, etc. C'est difficile. Cet acteur n'existe pas aujourd'hui de mon point de vue. Donc, comme je le disais récemment, s'il va y avoir un acteur quelconque qui va intervenir comme médiateur, ça ne peut être que des personnalités maliennes qui ont une certaine légitimité et qui vont véritablement s'investir à cet exercice-là. Ça m'étonne que la solution puisse venir d'ailleurs, parce que la tension et le climat sous-régional est qu'aujourd'hui, il y a une rupture de confiance entre le gouvernement en place aujourd'hui et beaucoup d'autres acteurs liés, surtout à la gestion de la crise que le Mali a connue, qui dure depuis 2012. C'est ça qui explique que pourquoi la CEDEAO n'a pas réussi en 2020 pour empêcher le coup d'État? Parce que les acteurs n'avaient plus confiance en la CEDEAO. Il y a une perte de légitimité. Et donc, quand vous avez un tel acteur qui n'est pas en légitimité et qui veut jouer un rôle de médiateur, c'est difficile. Un médiateur, ça ne s'impose pas. Les acteurs doivent l'accepter.
Mais est-ce que les espoirs ne s'aménusent pas aussi sur ce plan lorsque vous parlez de oui. personnalité malienne pour peut-être redynamiser ce dialogue? Quand on écoute Ben Mamata qui dit qu'il y a une crise de leaders religieux, politiques, de la société
parce
civile.
Parce qu'on a eu beaucoup de
sur
leaders.
Sur qui peut-on compter maintenant?
On a eu beaucoup de leaders qui ne sont pas restés, mais qui étaient partis de ce conflit-là. Et qui, au fur et à mesure, on commence à se rendre compte que certaines personnes qui avaient de la légitimité au début du conflit en 2012 étaient très proches de certains groupes et qu'aujourd'hui, de plus en plus, ces acteurs-là parfois perdent leur légitimité. Pareil pour certaines autorités traditionnelles. Parce que quand vous avez certains chefferies traditionnelles qui servent de caution morale à des groupes armés, ça devient difficile que cette même personne se retourne pour dire qu'aujourd'hui, oui, je fais le médiateur.
D'accord. Ouais,
mais c'est difficile.
Ben Mamata, les espoirs peuvent être reposés sur qui maintenant pour qu'on évite le pire, quoi.
Vous savez, il faut que nous récupérions toutes nos entreprises d'abord avant de discuter avec qui que ce soit. Parce que l'espoir ne peut être mis que sur les Maliens. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les cadres qui sont là, les cadres politiques, religieux ou autres qui sont à Bamako par affinité les prendre et puis dire on vous prend comme médiateur. Aujourd'hui, je vous dis sur ce plateau, il y a des hommes qui sont dans ce pays qui peuvent aller dans la forêt, dans la brousse avec pour aller rencontrer ces gens avec les armes pour les parler français. Parce que l'exemple de Farabou qui est là, ce n'est pas le président du Haut Conseil qui est parti en forêt, mais c'est un Malien qui s'est mis au service du Haut Conseil du Haut Conseil islamique pour aller faire choisir la libération de Farabou, ne serait-ce que 3 mois et quelques jours.
D'accord. Donc, on peut dire qu'il y a toujours des gens sur qui on peut compter. Je crois qu'on va s'arrêter là, puisqu'il est 19h. Nous espérons que ce problème va se résoudre sans qu'on en arrive à ce que Bakabini propose. Merci à vous tous quand même d'être passés sur ce plateau. Bakabini Keïta, qui est analyste politique, docteur Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur et analyste politique également, et Mohamed Mamat Ben Mamata Touré, qui est le président de l'association Anko Mali. Ce débat a été réalisé par Imran Akilou Maïga. À la mise en onde, il y avait Adjaratou Traoré, à la régie vidéo Salim Diouara. On parlait aujourd'hui de l'après-MINUSMA à Kidal, comment gérer cette question. Merci à toutes et à tous. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission. On se reprend demain, Inch'Allah.